Et nous accueillons de ce pas Philippe Quentin. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Match des étoiles de la Ligue nationale, concours d'habileté ce soir. On a le même genre de discussion autour de ça chaque année. J'imagine que les gens de football ont la même discussion sur d'ailleurs le match des étoiles du football qui aura lieu en fin de semaine. Par rapport au hockey, où est-ce qu'on en est rendu avec la Formule 3 contre 3 depuis quelques années? Les habiletés, ça évolue peu, quelques petits changements. Les filles à qui on ouvre, on fait un peu plus de place depuis 2 ans maintenant. Comment tu vois l'évolution de tout ça puis ce que ça donne, là? Qu'est-ce que ça va donner en fin de semaine?
Ben, je trouve que la Ligue nationale a quand même essayé de renouveler la formule et avant d'en arriver à ces matchs 3 contre 3, là, on sait, il y a même eu la formule des équipes repêchées. Là, il y avait deux capitaines qui repêchaient des joueurs comme on faisait quand on était jeune dans la cour d'école pour former deux équipes. Ça, ça n'a pas vraiment duré. Je trouve qu'avec la formule à 3 contre 3, on a trouvé un truc intéressant. C'est généralement agréable à regarder. Bon, si tu as quelque chose d'autre à faire là, ce jour-là, ce soir-là, si tu écoutes autre chose, mais quand même, c'est assez divertissant. Et je trouve aussi que des fois, il ne faut pas analyser ça trop sévèrement, le match des étoiles, puis dire « Ah, ça n'a pas de bon sens, puis on devrait, tu sais, tout scraper ça, puis oublier de même la tenue d'un match des étoiles. » Parce que pour la ville qui accueille le match des étoiles, c'est important. C'est pas rien accueillir tous les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey pendant 2 ou 3 jours. Puis c'est bon pour la visibilité du hockey dans la ville en question. Puis là, c'est sûr qu'on s'intéresse pas beaucoup à ça cette année avec nos yeux montréalais ou québécois. Mais si le match des étoiles avait lieu à Montréal, ça serait autre chose. Tu sais, on serait assez excités. Puis il y a toujours des choses intéressantes en termes de nouvelles. La conférence de presse de Gary Bettman, puis tous les joueurs qui commentent et tout. Donc, il y a des choses intéressantes. Alors, je pense que tu sais, on devrait oublier ça quand il y a des Jeux olympiques, et je pense qu'on devrait aller aux Jeux olympiques, ce qui n'est pas encore sûr pour ceux de 2022. Mais de façon générale, moi, je ne juge pas la formule trop sévèrement.
Et que penses-tu de la suspension? On en a parlé dans notre podcast Sortie de zone aujourd'hui, plutôt avec nos collègues Jérémy Filosa et Guillaume Lefrançois. C'est disponible d'ailleurs en ligne après les amateurs de sport seulement. Non, mais c'est disponible là, mais je vous invite à l'écouter plus tard. Ovechkin suspendu parce qu'il ne participe pas. J'ai aimé l'opinion que tu as exprimée pendant le podcast, puis j'aimerais ça que nos auditeurs, les amateurs de sport, l'entendent. Le Canadien va probablement pas porter plainte, évidemment. T'affrontes les Caps privés d'un joueur qui te fait mal à toutes les fois que tu les affrontes, mais celui qui veut aller voir une des principales vedettes encore à son âge de la Ligue nationale est privé de sa présence. J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui suggérait qu'il purge sa suspension à domicile pour que ce soit les Caps de Washington et leurs partisans qui soient pénalisés. Toi, comment tu vois ça?
J'ai vu cette opinion-là, j'ai trouvé ça intéressant, mais pour moi, Mario, il ne devrait pas y avoir de suspension. Je trouve ça même terrible que la Ligue nationale de hockey, en forçant un joueur à rater un match parce qu'il ne s'en rend pas au match des étoiles, influe de façon indue sur le volet sportif des activités de la Ligue nationale. C'est-à-dire qu'on privilégie le marketing, parce qu'on s'entend que le match des étoiles, c'est une immense opération marketing, et c'est très bien, là. Je l'ai dit tantôt, c'est bon pour la ville qui accueille le match et tout, j'ai rien contre ça. Mais il en reste pas moins que c'est du marketing. Alors, parce qu'un joueur ne remplit pas son obligation marketing d'aller au match des étoiles, ben on dit tu joueras pas une rencontre. Donc, tu influes carrément sur le produit sportif que t'offres aux gens. Ça veut dire que comme ligue, le message que t'envoies aux fans, c'est le marketing, dans ce cas-ci, c'est plus important que l'aspect sportif. Puis là, c'est peut-être pas très grave pour les Capitals de Washington qui vont participer aux séries éliminatoires sans aucun doute. Mais imagine, là, si c'était une équipe qui était vraiment à la limite des séries éliminatoires, puis le meilleur joueur rate un match pour cette raison-là, puis à la fin de la saison, il rate les séries éliminatoires par 1 point, et puis on ne sait pas ce qui serait arrivé si le joueur vedette avait été là, mais les chances de gagner auraient sans doute été meilleures. Alors, ça veut dire que la Ligue nationale influence l'éventuel résultat d'un match. Tout ça pour préserver son aspect marketing. Je trouve que même au niveau de l'éthique, c'est extrêmement mauvais, que ça envoie un mauvais message. Alors, cette idée-là que des joueurs soient suspendus, pour moi, c'est une idée vieille qui devrait être reléguée dans la filière 13 le plus rapidement possible. Si on veut pénaliser le joueur, qu'on lui donne une amende, salée, qu'on y aille avec, comme on le fait souvent dans le cas de parfois un coup illégal, le joueur ne sera pas suspendu, mais il va payer une amende, là, si ce n'est pas si grave, entre guillemets. Ouais. Alors, qu'on y aille avec une amende. Mais là, de vraiment de priver, puis c'est même pas moi, c'est pas l'aspect de priver le public montréalais de voir Ovechkin ou de priver le public de Washington de voir Ovechkin. C'est pas ça. C'est l'impact sur le match, l'impact sportif. Et c'est ça que je n'admets pas dans la décision de la Ligue nationale.
Et si ton objectif, c'est qu'il assiste ou qu'il participe vraiment au match d'étoiles, je pense que ni une amende, ni une suspension d'un match ferait la job. Là, ça prend la stratégie bâton de baseball ou monsieur à la bleuet bionique de tout à l'heure. C'est 5 matchs de suspension. Là,
ouais,
là,
mais
là.
Ça, c'est pas mieux. Là. C'est pas ça. C'est
non, mais les gars, ils iraient.
Mais je comprends.
Mais les gars, ils iraient, j'imagine. Tu penses
ben, ça serait excessif. Je veux dire, je sais pas. Je pense que les joueurs l'accepteraient pas. L'association des joueurs accepterait pas ça non plus. Ça serait beaucoup trop pour rater. Voyons, 5 matchs de suspension. Tu donnes un coup de hockey sur la tête de ton adversaire, puis t'as même pas ça, 5 matchs.
Non, mais tu sais que les intérêts défendus par la Ligue sont souvent mystérieux, comme les pénalités qu'on va imposer pour une rondelle qui s'en va automatiquement dans les estrades, mais t'as le droit de donner un coup de poing sur la gueule à quelqu'un après un hors-jeu. Alors, dans cet ordre des choses,
tu dis que t'es contre les commotions, tu veux lutter contre les commotions cérébrales, puis que c'est terrible, mais d'un autre côté, t'autorises encore la bagarre, c'est-à-dire, c'est quoi une bagarre? C'est essayer avec son poing de frapper la tête de l'adversaire, et une commotion cérébrale peut en résulter, et ça, t'as pas de problème avec ça, mais tu dis, non, on punit, et il s'en va 5 minutes au banc des punitions. Alors, on n'en est pas à la première absurdité près. Mais cela dit, je veux signaler quand même un bon coup de la Ligue nationale. Exactement. 3 contre 3 ce soir. Autrement dit, ce sont les meilleures joueuses du monde, les Américaines et les Canadiennes, vont s'affronter. Équipe Canada contre équipe États-Unis. 2 périodes de 10 minutes en temps continu à 3 contre 3. On a des Québécoises qui sont là, notamment Marie-Philippe Poulin et aussi Mélodie Daou. Et un petit peu plus tôt aujourd'hui à l'émission de Patrick Lagacé, Patrick et moi, Mario, avons eu l'occasion d'interviewer Mélodie Daou qui était à Saint-Louis. Mélodie Daou, juste pour rappeler à tout le monde, c'est qui? Ben, c'est une double médaillée olympique, médaillée d'or à Sochi en 2014, médaillée d'argent à Pyeongchang en 2018. Et je rappelle qu'en 2018, elle a été sacrée meilleure joueuse du tournoi. Donc, c'est vraiment une des plus grandes joueuses de hockey au monde. Et là, elle était à Saint-Louis et elle était évidemment tellement contente d'avoir cette occasion-là parce qu'on le sait, c'est dur pour le hockey féminin.
Surtout cette année pour eux autres. Là,
ben, c'est ça, exactement, avec la fin des activités de la Ligue canadienne. Alors, on essaie de restructurer le hockey féminin. Puis j'ai trouvé intéressant, elle a dit une chose, c'est que Patrick, tout à coup, lui a demandé, c'était le fun, il lui a dit, écoutez, il dit, Mélodie, vous, les Canadiennes et les Américaines, là, vous avez eu des combats épiques, là, t'sais, donc vous ne devez pas vous aimer trop. Alors, comment ça se passe quand vous vous retrouvez dans une ambiance beaucoup plus relaxe comme celle-là d'un match des étoiles? Et c'était intéressant sa réponse. Elle a dit, ben écoutez, c'est pas tout à fait la même chose dans un match comme ça, là. C'est pas une finale olympique au niveau de la tension. Mais elle a dit que depuis qu'elles sont en train de lutter, au fond, pour la survie de leur sport dans une ligue organisée,
toutes les joueuses se sont installées.
Exactement. Les Américaines et les Canadiennes, le même combat, essayer d'assurer la survie dans un premier temps, l'essor, ben, peut-être pas la survie, ça va survivre, mais de l'essor du hockey féminin, de le structurer, de créer une vraie ligue. Alors, elles travaillent toutes dans cette direction-là et a dit ça crée de la camaraderie parce qu'on se bat au fond pour le même objectif. Alors, j'ai trouvé ça intéressant et j'espère que la Ligue nationale de hockey, qui fait un premier pas en organisant un match, un petit peu plus que l'an dernier, là où il y avait une joueuse qui avait participé au concours d'habileté. Là, on y va vraiment. Les joueuses vont pouvoir montrer devant, comme elle le rappelait, Mélodie Daou, devant quoi 18-20 000 personnes, tout ce qu'elles sont capables de faire. Ça va être télévisé partout, donc théoriquement, une bonne cote d'écoute. Alors, souhaitons que la Ligue nationale aille encore plus loin. Parce que, Mario, il s'est produit quelque chose là depuis le début de l'année qui est assez saisissant. Dans le basketball, l'Association nationale de basketball, on le sait, chapeaute en bonne partie le basket professionnel féminin. Et là, ce qu'on appelle le Women's National Basketball Association, la WNBA. Et là, la WNBA vient de signer, on vient de s'entendre, c'est pas tout à fait signé, mais on vient de s'entendre sur les termes d'une nouvelle convention collective entre les propriétaires d'équipe, parce qu'il y a des propriétaires à 50% puis la NBA à 50%. Et les joueuses. Et dans cette nouvelle convention collective-là, le salaire moyen des joueuses va être largement supérieur à 100 000 $, je pense que c'est 130 000, et les meilleures joueuses du circuit vont pouvoir toucher jusqu'à 500 000 $. Et en plus, tout un programme de primes, de congés de maternité et tout. Donc vraiment, on a une convention collective qui est intéressante puis qui va permettre aux joueuses de gagner leur vie en jouant au basketball, puis de se donner à fond à leur sport. Et ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Et moi, je pense que la Ligue nationale de hockey devrait suivre cet exemple-là.
Autre sujet, je me suis fait prendre probablement, parce que tu sais, avec quand ça se passe à l'autre bout du monde, en Australie ou ailleurs, c'est difficile de se retrouver, mais Federer a remporté son match contre Milman. Je pensais qu'il allait s'incliner. J'ai pas vu la fin du bris d'égalité. J'étais sûr qu'il était cuit, puis finalement, il est revenu, puis il a gagné son match.
Il perdait de mémoire 8-4. C'était un bris d'égalité de 10, parce qu'on était à égalité au cinquième set. Alors, chaque majeur a sa particularité pour régler le bris d'égalité quand on en arrive là.
Ben oui, les autres, c'est 10 là-bas.
Ouais, exactement. Il perdait 8-4. Il a fait les 6 derniers points du bris d'égalité, puis il a gagné. Alors, ça a été vraiment un retour extraordinaire. Ça a été un beau moment. J'ai pas vu le match, mais j'en ai vu tout un plus tôt, hier soir, en fait. Puis j'avais aucune attente. C'était le match de Serena Williams contre la Chinoise Wang Qiang.
Oui.
Et à New York, l'homme américain, ça s'était terminé en 44 minutes à la faveur de Serena Williams qui avait gagné 6-1-6-0. Alors, on s'attendait à un match un peu semblable. C'est pas du tout ce qui s'est passé. La Chinoise a gagné le premier set et elle a servi pour le match au deuxième set. Elle menait 5-4. Elle a servi pour le match. Serena est revenue. Elle a remporté le deuxième set et on s'est dirigé vers un troisième, Mario. Mais là, tu dis, écoute, Serena vient de revenir. La Chinoise, elle a raté sa chance. Elle va s'effondrer. Serena va gagner 6-0, 6-1. Ben, c'est pas ça qui s'est produit. Ils se sont échangés coup pour coup. Ça s'est rendu presque au bout. Et finalement, la Chinoise a éliminé Serena Williams. C'était un moment de tennis. Le dernier set, la tension, la qualité du jeu. Il y a eu de très longs échanges. C'était vraiment spectaculaire. Et franchement, la Chinoise a eu beaucoup, beaucoup de cran de tenir le coup face à Serena Williams, qui avait l'appui complet et entier du public, sauf pour un petit groupe là, qui prenait pour son adversaire. Mais ça a vraiment été un super beau moment de tennis. Maintenant, tout ça aujourd'hui, je lisais la presse américaine. Et tout le monde s'interroge un peu sur l'avenir de Serena Williams parce que oui, elle avait gagné un tournoi en début de saison, un tournoi de moins d'importance en Australie. Mais là, ça fait plusieurs fois qu'elle échoue en majeur, donc deux fois en finale à l'Omnium américain. Elle a perdu, on s'en souvient, l'an dernier contre Bianca Andreescu, l'année précédente contre Naomi Osaka. Elle est toujours à la recherche là, du titre majeur qui lui manque pour égaler le record. Alors, mais là, une défaite comme celle-là, je pense que ça lui a fait mal. Puis d'ailleurs, je regardais sa conférence de presse d'après-match, puis elle a dit... T'sais, comme je te disais, tout le monde pensait après deux sets qu'elle revenait et qu'elle allait gagner au troisième. Et c'est à peu près ça qu'elle a dit. Elle a dit quand le deuxième set a pris fin puis que je gagnais puis qu'on s'en allait au troisième, elle a dit « j'ai jamais imaginé que j'allais perdre ce match-là ». Mais c'est ça qui est arrivé.
Incroyable quand même, mais c'est pour ça qu'il faut les jouer, les matchs. Et,
Mais là, faut que je te parle, laisse-moi 30 secondes te parler de Coco Gauff. Là. Si les gens ne la connaissent pas, c'est
un jeune phénomène américain.
Ouais, 15 ans, Mario. Et là, elle a battu hier la championne en titre des internationaux d'Australie, Naomi Osaka. Elle a 15 ans. Elle est plus jeune que presque tous les joueurs qui participent au volet junior des internationaux d'Australie. C'est incroyable quand tu penses à ça. Elle est plus jeune que les joueurs juniors et qui ont leur tournoi à
elle
part.
Elle va dominer le tennis pendant 15 ans.
Ah ben, c'est extraordinaire.
De manière expertise-là. Et Bianca elle vont peut-être être les... Je sais
peut-être,
pas.
Peut-être.
Et Naomi Osaka, parce que c'est la relève, le Serena.
On sent là, que la transmission du flambeau un petit peu. Là, ça, on sent que ça s'en vient. Parce que hier, Caroline Wojnacki a disputé son dernier match en carrière. Elle a perdu. Elle avait déjà annoncé qu'après l'Australie, c'était terminé pour elle. Ça a été assez émotif. Un beau moment. Serena Williams, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'elle est capable de rebondir? Elle a dit oui là, en conférence de presse, qu'elle est encore capable et tout. Mais là, les résultats ont pas été au rendez-vous, en tout cas, cette semaine en Australie. Alors, Coco Gauff, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est représentée. Son agent, c'est une équipe, c'est Team 8, équipe 8. Et qui est propriétaire de Team 8? C'est Roger Federer et son agent Tony Gaudzic. Alors, ils ont formé ensemble une firme de représentation. Ils représentent évidemment les intérêts de Roger Federer, mais en plus d'un certain nombre de joueurs, dont Coco Gauff. Alors, Federer, tu sens qu'il chapeaute un peu Coco Gauff puis qu'il lui donne des conseils et tout. Alors, c'est assez sympathique de voir ça.
Un mot sur une entrevue qu'a accordé le nouvel entraîneur de l'Impact de Montréal, Thierry Henry, dans l'équipe. Ouais. Qu'est-ce qui ressort de cet entretien-là? Il tient le même discours que lorsqu'il parle ici, j'imagine?
Oui, tout à fait. tout à fait, mais c'est un bon papier. Là, si les gens ont la chance de le voir, des fois l'équipe, je dois l'avouer, là, c'est plus difficile. Il faut que tu sois abonné et tout. Mais c'est dans l'édition d'aujourd'hui, de vendredi, avec une grosse mention à la une, un papier qui s'étale sur deux pages, un papier question-réponse. L'équipe a envoyé un journaliste à Orlando, en Floride. Donc, c'est là qu'on voit combien la renommée et l'intérêt autour de Thierry Henry est fort encore aujourd'hui en France. Et puis, on lui pose toutes sortes de questions. C'est assez intéressant. Il reparle encore une fois, un peu comme Didier Drogba l'avait fait dans le passé, d'un problème majeur en Major League Soccer, et c'est bien sûr la question du transport, le fait que le nombre de vols nolisés pour chaque équipe à chaque année est encadré, puis tu sais, il laisse entendre que ça n'a pas de bon sens, parce que ça devient tellement dur pour les athlètes de traverser surtout les grandes distances nord-américaines et puis de performer le lendemain ou le surlendemain. Il dit, il y a des gens qui me disent que c'est lent, le jeu en Major League Soccer, mais il dit, comment veux-tu que ça soit pas lent à la partir de la 60e minute quand tu as traversé le continent puis que tu joues un match à 15h l'après-midi puis tu es arrivé bon la veille ou l'avant-veille. En fait, je paraphrase un peu, mais grosso modo, c'est ça que c'est le message qu'il envoyait. Alors, on sent que ça, c'est encore un irritant. Maintenant, bon, on voit que la convention collective est en...
Mais je t'arrête là-dessus. Une nouvelle convention sur collective, cet aspect-là, là, les gars qui se plaignent de ces conditions-là, ils jouent quoi en MLS? C'est 34 matchs dans la saison? C'est sûr que tu es sur le terrain 90 minutes. Là. Je comprends que c'est pas 12 minutes, 28 d'utilisation. Mais quand même, en tout cas, ils doivent, sans le dire de façon à déprécier l'un ou l'autre, ils doivent avoir du respect quand ils constatent que, je veux dire, les joueurs de baseball, c'est vrai qu'ils sont trois jours dans une ville généralement, mais prends au hockey, les gars, tu joues 41 fois sur la route, t'es toujours dans les avions, tout ça, puis tu sais, tu joues deux matchs en deux soirs. Je sais que les gars sont pas sur la glace 90 minutes. C'est là la grosse différence, mais t'as-tu l'impression que... C'est parce qu'ils n'ont pas connu autre chose?
Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, le sport, Mario, s'est rendu tellement spécialisé. Puis la différence entre une performance optimale puis une performance un peu moins bonne, ça tient à une foule de détails. C'est l'alimentation, c'est l'approche psychologique. T'sais, tout est rendu plus perfectionné.
Ça compte les voyages, parce que les équipes de l'Ouest, par exemple, je le sais, il y avait l'indice de fatigue. Alain Vigneault pourrait nous en parler. À Vancouver, il avait mis sur pied un système. Toutes les équipes de l'Ouest, si tu compares, mettons, n'importe quelle équipe qui est près de la côte du Pacifique, le nombre de milles aériens qu'ils vont franchir dans une année par rapport à une équipe de la division métropolitaine, c'est comme si eux autres, la métropolitaine, c'est des conditions du soccer en Europe, genre.
Oui, c'est ça. Puis je pense que peut-être aussi, puis ça, je te l'accorde, peut-être un aspect symbolique, mais dans les grands circuits professionnels, tu sais, on voyage en vol nolisé. C'est comme ça que ça se passe. Alors, moi, je pense qu'il va falloir que Major League Soccer en vienne tout à coup à ça parce que, manifestement, c'est ce que les têtes d'affiche européennes croient. Alors, si tu veux que le circuit s'améliore, il va falloir que des très bons joueurs européens et de plus en plus jeunes, souhaitons-le, viennent jouer en Amérique du Nord. C'est un projet de très longue haleine, bien sûr, j'en suis conscient. Mais pour ça, il va falloir que l'ensemble des conditions soient attrayantes, pas seulement l'aspect salarial. Alors, je pense qu'il va falloir que Major League Soccer travaille là-dessus. Rémi Garde en avait parlé également quand il était l'entraîneur de l'Impact. Alors ça, je pense que c'est vraiment un sujet là, qui est dans la qualité des relations entre la Ligue et ses joueurs. C'est vraiment un aspect qu'il devrait étudier.
Merci, Philippe. Bonne fin de semaine.
À toi aussi.
Dans un instant, un ancien entraîneur de Laurent Duvernay-Tardif qui s'en va au Super Bowl.